Chantons Marie avec le chant numéro 17. Marie court vers tes frères. Le chant numéro 17.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, 100 jours après, Trump est-il en train de rentrer dans le rang? Et les jours fériés, est-ce que c'est sacré? Nos débatteurs ce dimanche, Magali Lafourcade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous publiez dans quelques jours, dans trois jours précisément, « Démasculiniser la justice » aux éditions Les Petits Matins. Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des éditions du CERF. Votre dernier livre, c'était chez Albin Michel l'an dernier, « Occident, ennemi mondial numéro 1 ». Didier Lesky, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Votre dernier ouvrage, vous l'avez sous les yeux, j'ai oublié de le noter, je vous laisse le dire.
Ce sont les manifestes qui ont changé le monde avec Gérard Courtois.
Et c'est aux éditions
Librio Flammarion.
Et Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au Monde, votre dernier ouvrage chez Stock, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons le Baguette Gate. La polémique du 1er mai, fallait-il laisser les boulangers ouvrir leurs boutiques le jour de la fête du travail? Alors ça paraît évidemment assez anecdotique, mais ça en dit peut-être long sur notre rapport au travail, à la liberté, à notre modèle social et aux traditions. Nous en débattrons. Mais pour commencer, retour sur les 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Après des débuts tonitruants, assistons-nous à un début d'apaisement de la part de l'administration américaine. Mercredi, en tout cas, un accord a enfin été trouvé entre les États-Unis et l'Ukraine pour l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes.
L'accord signé aujourd'hui signale clairement aux dirigeants russes l'engagement de l'administration Trump en faveur d'un processus de paix axé sur une Ukraine libre, souveraine et prospère à long terme. Il est temps que cette guerre cruelle et insensée prenne fin.
Une Ukraine libre, souveraine et prospère à long terme. Alors voilà une déclaration somme toute assez banale, à ceci près qu'on ne pensait plus entendre de tels mots avant longtemps dans la bouche d'un membre de l'administration Trump. Ils sont signés ces mots Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, l'équivalent de notre ministre de l'économie, et ils ont été prononcés mercredi après la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Ukraine. Objectif, une exploitation commune des ressources naturelles ukrainiennes, les minerais, mais aussi le gaz et le pétrole, dont une partie des bénéfices servira à la reconstruction du pays. Le changement de ton est d'autant plus saisissant qu'on se souvient de la séquence entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky fin février à la Maison-Blanche, qui avait tourné au pugilat. Le même type d'accord était en jeu, mais le président américain avait sans ménagement voulu imposer ses conditions à son interlocuteur. Deux mois plus tard, tout va mieux. Le président ukrainien salue un accord véritablement équitable avec les États-Unis, un partenariat gagnant-gagnant selon Washington. Alors Donald Trump l'admet lui-même dans un style toujours aussi déconcertant. Vladimir Poutine ne veut peut-être pas arrêter la guerre, il me mène simplement en bateau. Alors s'agit-il d'un moment de lucidité ou d'un retour durable, une version plus conforme à la politique d'alliance des États-Unis? 100 jours après son arrivée au pouvoir, plusieurs indices témoignent en tout cas d'une inflexion du trumpisme, des angles d'attaque moins obtus, davantage d'arrondi et de diplomatie. On l'a vu sur les droits de douane, où l'administration américaine, sous la pression notamment des marchés financiers, a offert un sursis aux pays de l'Union européenne et se dit prête à discuter avec la Chine. Discussion encore avec l'ennemi juré, l'Iran, afin de trouver un accord sur le programme nucléaire iranien. Et même l'expression d'un peu de compassion par Donald Trump à propos des Palestiniens de Gaza, des gens qui souffrent, dit-il, et qu'il faut aider. Alors, est-ce à dire que le turbulent président est en train de rentrer dans le rang? Nous allons examiner cette question pendant les prochaines minutes. Et je voudrais qu'on commence avec vous, Sylvie Kaufmann, et avec cet accord entre l'Ukraine et les États-Unis. Est-ce que, comme le disent de part et d'autre les présidents ukrainiens et l'administration américaine, est-ce que c'est un accord équitable, un accord gagnant-gagnant?
Alors d'abord, pour le savoir, il faudrait avoir la totalité de l'accord sous les yeux, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de dispositions de cet accord qu'on ne connaît pas. Et comme vous le savez, dans les accords diplomatiques, le diable est souvent dans les détails, donc c'est difficile de se prononcer de manière définitive à ce stade. Alors ce qui est intéressant et ce qui est probablement positif, c'est que les deux côtés se disent effectivement gagnants, enfin trouvent quelque chose de positif, d'avantageux dans cet accord. Mais ce que je voudrais souligner, d'abord, c'est qu'il ne s'agit ni d'un cessez-le-feu, et encore moins d'un accord de paix. C'est-à-dire que cet accord sur l'exploitation des ressources naturelles de l'Ukraine, donc conjointe par les États-Unis et l'Ukraine, avec des dispositions qui sont plus intéressantes, plus avantageuses pour l'Ukraine que dans le projet initial des États-Unis, qui était carrément un projet d'extorsion en réalité, ne peut être mis en œuvre que s'il y a la paix. Que si la guerre est arrêtée en Ukraine. Or, rien ne nous permet aujourd'hui de dire quand ou comment elle peut s'arrêter. On n'a pas progressé sur cet objectif déclaré par Donald Trump bien avant même son élection, qui était de mettre fin à la guerre en Ukraine. Première chose.
Hein. Mais ça veut peut-être dire en tout cas que les États-Unis se rangent un peu plus du côté ukrainien en envisageant l'après-guerre avec cette exploitation concertée.
Oui, mais bon, l'après-guerre, il faut y arriver. C'est quand même un gros morceau, hein, c'est difficile. Et ce qui est intéressant, si on veut regarder le verre à moitié plein, c'est que en effet, là, on a une sorte de changement de ton dans le discours trumpiste ou trumpien il arrête d'accabler Zelensky et de le président ukrainien et de l'accuser en permanence d'avoir commencé cette guerre qui ravage son pays, ce qui est quand même une affirmation assez étrange depuis le début. Il commence à manifester un petit peu d'agacement vis-à-vis de Vladimir Poutine, et quand il dit « oui, je me demande s'il n'est pas en train de me balader », on aurait pu lui expliquer ça dès le début, mais enfin bon, qu'il s'en rende compte, c'est intéressant aussi. Mais si vous voulez, Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump pour... pour ces trois gros, énormes dossiers diplomatiques que sont l'Ukraine, Gaza et l'Iran, la négociation nucléaire avec l'Iran, est allé voir 4 fois Vladimir Poutine. Il s'est entretenu avec lui plusieurs heures et on ne voit pas ce qui en sort. Là, je vais parler du verre à moitié vide. Je ne vois pas l'inversion de tendance complète, si vous voulez. Je ne vois pas encore de rhétorique ou d'affirmation dans le discours de Trump qui permette de dire « j'ai complètement changé de pied ». Je reconnais que l'Ukraine doit être un pays souverain qui doit recouvrer son intégrité territoriale, qui doit avoir les moyens de se défendre, etc. Et que la Russie est un pays agresseur. Je n'ai pas encore entendu dans la bouche de Donald Trump que la Russie était le pays agresseur dans ce conflit. Donc ce sont aussi des choses un petit peu à prendre en compte, je crois.
Sans parler d'inversion complète, Jean-François Colosimo, est-ce qu'on peut quand même noter une forme d'inflexion ? Alors je reprends les mots, ce ne sont pas ceux de Donald Trump, ce sont ceux de Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, mais qui parlait d'une Ukraine libre et souveraine à long terme. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait et qu'on n'avait pas encore vraiment entendu de la part de l'administration américaine depuis que c'est Trump au pouvoir.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, je pense que, vous voyez, la fameuse scène de la Maison Blanche qui ressemblait à une scène de western où on avait Vance et Trump qui ractaient le pauvre Zelensky en lui expliquant la vie, ou en une réunion mafieuse dans un arrière-bar de Brooklyn. Cette scène-là, elle a été effacée par la scène, évidemment, aux funérailles du pape. C'était d'ailleurs fait pour ça. On n'est pas sûr qu'il se soit dit grand-chose. Mais bon, c'était une manière iconique de renverser, de montrer un Trump capable de discussion. Maintenant, je pense que chacune des deux parties a son propre intérêt dans l'affaire. Trump a besoin, dans son capitalisme de prédation et dans sa guerre commerciale contre la Chine, il a besoin des métaux rares là où il se trouve. Et donc, il est prêt, en fait, pour cela, à pactiser avec l'Ukraine, après avoir mis très très haut, selon sa méthode, je dirais, les termes de la négociation, puis finalement, les ayant assouplis, n'est-ce pas ? L'Ukraine, donc là, Trump, son problème, c'est la Chine, même quand il est en Ukraine. De l'autre côté, l'Ukraine, elle a intérêt malheureusement pour elle, à admettre ce principe assez cinglé que c'est elle, même si désormais, paraît-il, il ne figure plus dans l'accord, que c'est elle qui devrait acquitter l'engagement militaire des États-Unis, lequel engagement militaire, je veux dire, était dû à l'agression de la Russie. Donc, normalement, c'est l'État agresseur qui doit payer, n'est-ce pas, les réparations de guerre. Bon, on a évité ce discours-là, et maintenant, c'est présenté comme un accord gagnant-gagnant, finalement, sur des bases capitalistiques et étatiques réputées saines, alors que le problème de l'Ukraine, c'est qu'elle est obligée d'abandonner cette part de richesse, qui est la sienne, pour garantir le fait que les États-Unis ne vont pas partir trop tôt, surtout dans la possibilité d'une offensive, nouvelle offensive russe générale, où, dans ce cas-là, l'appui de l'armée américaine, pas au sol évidemment, même pas dans l'air, etc., mais par le biais des satellites et du renseignement, sera crucial pour l'Ukraine. Alors on voit qu'en fait, ce sont, je dirais, deux calculs très différents, avec des ennemis très différents, ou des adversaires très différents.
C'est pas le même, c'est pas la Russie
Non, c'est pas la Russie. Je pense encore une fois que la quête des métaux, comme je vous l'ai dit, c'est pour les États-Unis, c'est ne pas subir la Chine sur ce point de vue-là. C'est pas... Et que donc, pour l'instant, la Russie est en quelque sorte comme mise entre parenthèses, et l'Amérique de Trump ne s'adresse pas à la Russie dans cette affaire. Elle s'adresse à elle-même, elle s'adresse à la Chine, je dirais indirectement, et elle fait de l'Ukraine une forme un peu de dominion impérial. Nous venons exploiter les mines, n'est-ce pas ? On se croyait dans l'Empire romain. Nous venons exploiter les mines. En échange de quoi ? On vous propose, le maintien de trois bataillons légionnaires. Bon, c'est ça, pour moi, cet accord. Il ne veut pas dire plus que cela, et que l'urgence dans laquelle était Trump de clore ses 100 jours avec un accord, quel qu'il soit, parmi tous ceux qu'il avait promis.
Donc si je vous suis, Sylvie Kaufmann et Jean-François Colosimo, c'est pour l'instant, on ne s'emballe pas parce qu'on ne sait pas exactement d'abord ce qu'il y a dans cet accord et que ça ne dit rien, en tout cas, de ce que pourrait être la suite du conflit et l'élaboration d'un plan de paix, si tant est qu'il puisse y en avoir un, avec la Russie. D'autant que, alors, a priori, Didier Lesky, cet accord ne comporte pas de garantie de sécurité américaine. Donc ça justifie peut-être encore plus de rester très prudent par rapport à ce qui vient de se passer.
Enfin, il y a quand même des garanties d'une certaine manière, et Jean-François Colosimo a parlé de capitalisme, de prédation, voilà, des intérêts aussi importants que les métaux rares, eh bien c'est une garantie pour l'Ukraine que les Américains ne voudront pas que les troupes russes arrivent jusque là où il y a ces métaux rares. Donc de ce point de vue-là, il y a une forme de garantie qui n'est pas négligeable, et je trouve quand même qu'il y a une certaine cohérence malgré tout dans cette folie trumpienne, voilà. Il y a une cohérence qui est la défense des intérêts américains. Un jour, ce sont les droits de douane, on négocie. Effectivement, ceux qui sont visés, c'est la Chine. Voilà, c'est l'Ukraine, et on essaye de faire en sorte qu'on récupère une partie de la mise qu'on a été obligé de mettre, parce que, d'une certaine manière, on a quand même soutenu l'Ukraine contre l'invasion russe. Et tout ça, malgré tout, a quelque chose d'assez cohérent. Et la deuxième chose, c'est que Trump est quand même obligé de tenir compte de ce qu'on en dit. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre je réponds à la pression. Enfin, je fais pas quelque chose qui est complètement en dehors du monde. Je crois qu'il y a, de ce point de vue-là, c'est pas la Chine, c'est pas Xi Jinping. Je veux dire, il y a quand même, malgré tout, une démocratie américaine. Il y a quelque chose qui se joue. Il y a des pressions. Il y a une histoire, des alliés. C'est pas complètement un monde fermé. Et Trump est obligé d'en tenir compte. Voilà. Et moi, ce qui est la dernière chose qui me fascine un peu, c'est la manière. Régis Debray avait écrit un livre en 2017, s'appelait Civilisation, comment nous sommes tous devenus américains. Je vois ces derniers temps, on commente beaucoup, et on a raison de le faire, en particulier en Europe. l'Europe, vu les liens qu'on a, ce que font les États-Unis. Mais parfois, pour quelqu'un comme moi, on tombe un peu dénu. Je veux dire, la défense absolue de la voix de l'Amérique, qui a quand même été la chaîne de propagande de l'Amérique contre les mouvements, en particulier en Amérique latine. Enfin, c'était la chaîne qu'on utilisait, la voix de l'Amérique, c'était contre Salvador Allende. Je vois des gens de gauche qui se disent, attention, ils sont en train de fermer la voix de l'Amérique. Je veux dire, il y a quelque chose qui est assez étonnant. D'un côté, il y a un impérialisme américain qui continue à être là pour défendre ses intérêts en fonction du centre. Et de l'autre côté, il y a un monde qui regarde et puis qui dit, ah ben non, quand même, il ne faut pas qu'il arrive à tout détruire de ce qu'est l'influence américaine à travers le monde, parce que sinon, ça va laisser trop d'espace à la Chine. Et je pense qu'on a raison de s'inquiéter de l'espace laissé à la Chine, ça c'est sûr.
Donc on serait davantage aujourd'hui face à un Trump qui défend les intérêts des États-Unis, Magali Lafourcade, que face à un Trump qui se rend aussi peut-être compte que ce qu'il a essayé de faire avec Vladimir Poutine, ça ne fonctionnait pas et que, comme il le dit, Poutine le mène un petit peu en bateau.
Oui, mais alors c'est là où il y a une grande ambiguïté, c'est que plus Poutine le mène en bateau et plus Trump a une lucidité là-dessus, plus il fait pression sur Zelensky, parce que c'est beaucoup plus facile pour lui de faire pression sur l'Ukraine que sur le Kremlin. Et on voit que se dessine quand même un plan de paix américain qui demande des concessions, enfin d'acter des concessions territoriales sur la ligne de partage actuelle. Autrement dit, tout cet accord qui porte sur les minerais concerne essentiellement des zones qui sont de facto sous le contrôle russe aujourd'hui. Donc l'intérêt stratégique pour la Russie sur en plus un sol et un sous-sol dont on ne connaît pas tellement l'ampleur des ressources est quand même très hypothétique, vu que par ailleurs, ce plan qui s'esquisse demanderait aux Ukrainiens de concéder des choses à la Russie qui sont extrêmement difficiles à accepter et puis surtout qui ne vont pas dans le sens des intérêts américains. C'est pour ça que moi je nuancerai un petit peu en considérant que Trump là-dedans s'intéresse peu à l'Ukraine. Avoir un accord de paix complet, ce sera extrêmement difficile parce qu'il y a énormément d'enjeux à traiter, l'OTAN, la neutralité, la vérification de la stabilité militaire, la question des crimes de guerre à juger, etc. Donc il n'y a pas que la question du partage territorial. Et je crois qu'en fait, son enjeu pour lui, c'est soit on se réengage autour de militairement, financièrement et en renseignement auprès de l'Ukraine, soit on se désengage. Et il a besoin, je rejoins mes camarades là-dessus, il a besoin d'avoir des réussites parce que son gros problème en niveau de politique intérieure, c'est qu'il ne peut pas être réélu. Et donc s'il veut avoir de la fidélité de son parti, il a besoin d'avoir des succès et au moins de les habiller avec un narratif qui donne l'impression du succès. Et je pense que cet accord n'est pas tellement un accord géopolitique, c'est plutôt un accord pour pouvoir faire vivre cette idée d'une réussite sur le plan international.
Mais si au bout du compte, Magali Lafourcade, l'idée c'est quand même de pouvoir malgré tout exploiter une partie du sous-sol ukrainien et que cette exploitation-là, elle passe par un accord de paix, une négociation avec la Russie, à la limite, peu importe l'objectif du moment qu'on arrive à cette paix, non ?
Oui, sauf que comme c'est extrêmement compliqué d'obtenir un accord complet, et aujourd'hui on est très très loin, comme l'a dit Sylvie Kaufmann, hein, on a un Vladimir Poutine qui a l'air pas du tout à l'écoute. Au contraire, il est en train de cibler les populations civiles de manière massive. Donc on est loin de cet accord. Par rapport à ça, l'intérêt de Trump est quand même, il peut vite se désengager, se désinvestir. On l'a vu sur le dossier de la Corée du Nord, avec les conséquences que ça a eues. Quand ça devient très compliqué, il peut vite se lasser.
Sylvie Kaufmann et ensuite Jean-François Colosimo.
Oui, on l'a souligné, mais je voudrais encore le souligner, cet accord, il a été annoncé mercredi, je crois, donc des 100 jours. Hein. Et donc, effectivement, il fallait vraiment que Trump ait quelque chose à offrir à son... puisque c'est lui-même qui a voulu absolument célébrer ce palier des 100 jours. Il fallait bien qu'il ait quelque chose à présenter. Et donc, ça n'est pas un accord entre les belligérants, rappelons-le. Hein, c'est un accord entre les États-Unis et l'Ukraine. Et finalement, je crois qu'il se heurte, toute sa stratégie, si elle existe, de politique internationale, se heurte aussi au principe de réalité qui est qu'il n'est pas tout seul, il a des interlocuteurs. Et ces interlocuteurs, finalement, dans cet accord, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle montre une certaine dextérité des négociateurs ukrainiens et une pression aussi des Européens. On l'a vu au Vatican, là, dans cette rencontre. Je crois que c'est Keir Starmer et Emmanuel Macron ont facilité cette rencontre.
Keir Starmer, le premier ministre britannique,
oui. Mais donc, surtout la diplomatie ukrainienne, je trouve, là, a fait quelque chose de très astucieux. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un projet américain qui était totalement délirant et qui est ruineux pour eux. Et ils ont amené les Américains à quelque chose qui est très hypothétique, mais qui finalement ramène un peu les États-Unis dans l'orbite ukrainienne, l'éloigne un peu du narratif russe, si vous voulez, pas complètement comme je l'ai dit, mais aussi, il faut aussi souligner que dans la foulée de cet accord, il y a eu l'annonce du déblocage d'une aide militaire américaine de 50 millions de dollars. C'est pas énorme comparé à tout ce qui est engagé, c'est pas non plus, mais c'est un geste dans la mesure où les Ukrainiens étaient dans l'incertitude totale jusque-là sur les intentions des États-Unis de prolonger leur aide militaire ou pas. Cette aide a été interrompue pendant une semaine après la fameuse scène du bureau ovale. Ça a été avec des effets très très difficiles et compliqués pour l'armée ukrainienne. Et c'était un avertissement très sérieux pour les Ukrainiens. Donc depuis lors, on ne savait pas si les États-Unis allaient prolonger leur aide militaire qui était assez conséquente à l'époque de l'administration Biden ou pas. Et là, on a au moins un petit signe que, en tout cas, elle ne s'arrête pas immédiatement. Donc voilà, ce que je trouve intéressant une nouvelle fois là-dessus, c'est que les partenaires de Trump commencent à s'adapter aussi à sa gymnastique et à fournir des contre-pieds.
Jean-François Colosimo.
Oui, moi je pense que c'est, enfin, bon, on peut en finir avec cet accord, c'est un accord des deux côtés qui est court-termiste.
Oui.
Et qui ne dit rien, en fait, de bien précis, ni sur l'avenir, ni sur la solidité de l'engagement des deux signataires, n'est-ce pas ? Ni d'ailleurs sur le futur de l'Ukraine, malheureusement pour l'Ukraine. En revanche, je trouve qu'ici, on a un peu une tendance, si vous voulez, à beaucoup insister sur les incohérences de Trump, sur le côté versatile de Trump, sur le côté, on peut le dire, foutraque, etc. Mais je crois que d'abord, on ne comprend pas deux choses. C'est que, un, c'est un véritable visage de l'Amérique qui n'a pas été élu massivement pour rien, et que c'est plutôt notre idée de l'Amérique qu'on devrait réviser plutôt que de juste se contenter finalement du spectacle qu'il offre et qui nous cache peut-être des bascules du monde bien plus importantes, n'est-ce pas ? Et le deuxième point, c'est que par rapport à cette bascule du monde, effectivement, ben vous assistez, je le disais, à ce capitalisme de prédation, la République impériale, ce que disait Raymond Aron, n'est pas, il qualifiait ainsi les États-Unis, ben la République impériale, elle a décidé, en fait, de changer de logiciel. Elle avait imposé au monde son logiciel libéral après 1945, et aujourd'hui, l'Amérique, alors l'Amérique de Trump, mais regardez, l'Amérique ne veut plus de ce logiciel et préfère, en fait, aller à la castagne avec les empires rivaux, ou à s'entendre avec eux sur le dos de l'Europe, par exemple, quand il s'agit de la Russie. C'est ça, la vérité des faits. Juste un dernier mot. Quand vous voyez que J.D. Vance, le vice-président de Trump, bien plus armé intellectuellement, peut fustiger l'Allemagne et l'establishment allemand en raison du classement de l'AFD parmi les groupes extrémistes de droite, et de dire « Tiens, l'establishment allemand rétablit le mur de Berlin », s'il arrivait quelque chose à Donald Trump, vous verriez en fait un discours beaucoup plus articulé, mais qui serait tout aussi menaçant, voire plus, en raison même de son articulation.
Juste encore un mot, Jean-François Colosimo.
Parce que il est facile finalement de prendre Trump pour un clown. La clownerie n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui se passe planétairement est très très grave.
Ah ouais, c'est ce qu'on essaie d'expliquer justement ici régulièrement le dimanche.
Mais non, je sais
bien. Juste pour revenir sur ce que vous avez dit, et avant de repasser la parole à Didier Lesquier et Magali Lafourcade. Effectivement, il a été élu de manière très très nette et même quasiment triomphale, Donald Trump. Sauf qu'aujourd'hui, on voit aussi que dans l'opinion, sa cote de popularité commence assez largement à s'éroder. C'est-à-dire, est-ce que ça ne peut pas aussi expliquer ça, le fait qu'il réajuste un peu sa politique au regard de sa popularité, ou de sa moindre popularité?
En une minute, quand on regardait l'histoire romaine, le passage de la République à l'Empire, via la dictature, je veux dire, ce que pense même l'opinion, vous voyez, ça c'est un réflexe du monde d'hier, d'aller mesurer les sondages, dire « Ah, il chute dans l'opinion, tant mieux ».
Il joue beaucoup là-dessus, quand même, lui.
Il est en train... Oui, mais son projet, c'est quand même d'assurer un pouvoir totalement indépendant des corps intermédiaires, voire de l'opinion. Mmh. Non, mais j'en fais pas... je pense que, vous voyez, par exemple, la manière dont il tient au complexe militaro-industriel, la manière dont il a réalisé idéologiquement la jonction entre la Silicon Valley... et les rednecks du Midwest, c'est-à-dire entre une forme d'élitisme radical et de populisme radical, tout ça, ce sont des mutations sur lesquelles il faut qu'on se penche. Et quand on court auprès des indicateurs de l'ancien monde, je ne dis pas qu'ils ne veulent rien dire, mais je dis que ce n'est pas une rassurance formidable tout de même. C'est ça que je veux dire, on ne peut pas se rassurer comme ça.
Didier Leschi.
Oui, je crois qu'il y a on va voir la suite. Moi, je suis d'accord... C'est plus cohérent qu'il n'y paraît. Voilà. Nous, on a le sentiment que c'est un fou, mais en réalité, c'est assez cohérent. Et
je suis pas sûr. Pardonnez-moi, alors Jean-François Lozemo et Didier Leschi, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on continue à dire que Trump est fou. Je peux changer d'avis, mais il y a une forme de pragmatisme. Le pragmatisme, c'est pas de la folie.
Oui, mais il y a aussi souvent une forme de condescendance vis-à-vis de personnages qui perturbent complètement notre mode de pensée. On l'a vu avec Milei en Argentine, et en réalité, on a dit tout de suite, ça va être la catastrophe. C'est pas aussi simple que ça. On a parlé de manière très condescendante, parce que les Français adorent parler de manière condescendante de l'Italie à propos de Giorgia Meloni, et on voit que elle tient beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et en ce qui concerne Trump, je pense que l'étape vraiment suivante pour voir jusqu'où il est capable d'aller, c'est sans doute la négociation avec l'Iran, parce que l'enjeu pour lui, c'était de savoir si l'Iran bascule ou pas du côté de la Chine, et trouver un accord sur le nucléaire avec l'Iran, ça perturbe l'ensemble de l'environnement par rapport à l'Arabie Saoudite, même par rapport à Israël. On va voir exactement jusqu'où il est capable de faire. Et en plus, il perturbe l'ensemble du champ démocratique, puisque il faut quand même se souvenir que le soutien à l'Ukraine, c'est pas quelque chose qui est partagé, par exemple, par la gauche en Amérique latine. Il faut quand même le rappeler, et que à travers même l'Europe, ceux qui sont les plus défiants par rapport à ce soutien de l'Ukraine et qui aujourd'hui réactivent la critique contre les États-Unis à cause justement de cet accord à propos des métaux précieux, c'est quand même des gens qui sont globalement dans un espace qui est hostile aux républicains. Hein. C'est ça la vérité. Donc, il perturbe l'ensemble. Là où j'aurais une nuance, c'est que je pense malgré tout qu'il fait effectivement une synthèse, c'est-à-dire qu'il entraîne quand même une partie de la population contre, en gros, les deux côtes, la côte Est et la côte Ouest, ou contre les campus américains qui sont complètement marginalisés par rapport à cette dynamique-là. Et donc, on va voir exactement ce qui va se passer. Et la dernière chose, c'est que on voit bien à quel point l'Europe se met dans la roue de tout ça, au sens où elle n'est pas capable d'articuler quelque chose qui soit autonome et qui permette de sortir par le haut de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. Et au contraire, elle donne le sentiment de quelque chose de mou, hein, qui n'arrive pas à avancer, alors que les autres, ils avancent de manière très ferme.
Alors, sujet d'ailleurs, Magali Lafourcade, c'est-à-dire, est-ce que ces petits signes d'inflexion qu'on essaie de détecter dans la politique de Donald Trump, c'est pas quelque chose que les Européens attendent, en espérant peut-être avoir la possibilité de baisser un peu la garde et de récupérer leur allié américain tel qu'il l'avait laissé, ou pensait l'avoir laissé avant que Trump revienne au pouvoir? Est-ce que, en tout cas, il peut y avoir ce risque-là, peut-être, c'est-à-dire que de se dire, Trump rentre un petit peu dans le rang et on n'a pas besoin d'aller aussi loin qu'on pensait en termes d'autonomie stratégique, par exemple.
Je ne crois pas. En fait, je pense qu'on est sorti un peu de cette espèce de sidération qui avait suivi l'arrivée de Trump, où sous un déluge d'annonces qui déplaçait la fenêtre d'Overton et qui avait tendance donc à aussi plaire énormément à sa base MAGA, puisqu'il cassait les codes, il cassait les normes quand il parlait de Gaza comme une rivière Riviera. C'était voilà. Je pense que les Européens sont arrivés à un moment de maturation où ils comprennent que les paradigmes ont changé, comme l'a dit Jean-François Colosimo. C'est ce qui Trump est le symptôme de quelque chose. Il y a un accélérateur de quelque chose qui est en train de se passer, et c'est une destruction de l'ordre international d'après-guerre sans avoir une alternative très claire. Mais ce qu'on peut voir au milieu de toutes ces annonces compliquées, c'est qu'il y a quand même quelques obsessions sur lesquelles on pourrait dire voilà, ça, ce sont des convictions des Trumpistes ou de l'Amérique de Trump. Il y a la Chine, bien sûr. L'idée, tout ce qui se passe avec Vladimir Poutine, c'est simplement pour le décrocher en fait du lien avec la Chine. Il y a l'idée que l'ordre mondial, c'est plus la prééminence du droit international, c'est might is right, c'est-à-dire les rapports de force avant tout. Le soft power est complètement secondaire, voire inexistant. L'idée d'un impérialisme régional, c'est la question de l'intérêt stratégique au niveau du Panama, du Canada, du Groenland, et puis surtout l'intérêt personnel de Trump. On voit que son intérêt, les intérêts familiaux de Jared Kushner dans la zone du Moyen-Orient, les intérêts de business sont très importants, et c'est pas les intérêts de l'Amérique nécessairement. Donc je crois que les Européens maintenant sont au clair là-dessus, et que cette volonté d'émancipation, comme toujours avec l'Union Européenne, elle va se construire avec les contradictions internes, avec aussi certains États qui sont quand même très proches de l'Amérique de Trump, voire même qui ont un lien avec le Kremlin. Donc ça va être difficile, mais au moins sur ce changement de cap, les choses sont quand même beaucoup plus claires dans l'esprit des Européens.
Donc si je vous suis un petit peu tous les cas, j'ai l'impression que vous diriez que 100 jours après l'arrivée de Donald Trump, on est plus presque dans une forme de clarification sur ce que c'est que le Trumpisme aujourd'hui, Sylvie Kaufmann.
Alors, moi, j'opposerais l'extérieur et l'intérieur. Je ne sais pas si on peut définir le Trumpisme, mais dans ce qui se passe actuellement dans la politique de cette administration. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on a encore l'impression du chaos, d'une stratégie qui n'en est pas une. Enfin, le chaos étant probablement lui-même la stratégie, semer l'incertitude en permanence. Et donc, c'est une stratégie qui désarçonne énormément les alliés des États-Unis, parce qu'ils sont habitués à une rationalité partagée et puis qu'ils pensaient avoir affaire à un grand allié qui ne se comporte plus du tout comme un allié, et même parfois comme carrément un adversaire, qui désarçonne moins, je pense, les grands dictateurs du monde. On voit que Xi Jinping, Poutine, même d'une certaine manière Netanyahou, ont leurs propres armes face à cette stratégie du chaos. Xi Jinping et Poutine considèrent qu'ils ont encore que le temps joue pour eux et font une forme d'obstruction, chacun à sa manière. Mais les Européens sont effectivement tout à fait désorientés, désarçonnés, essayent de s'organiser. Les Ukrainiens, j'ai décrit tout à l'heure leur réaction. Mais il ne faut pas... Donc là, je ne sais pas si on peut dire définitivement, voilà, le Trumpisme, on sait ce que c'est, la politique extérieure de Trump, on sait ce que c'est. À part cette stratégie d'inondation de la zone, comme disait Steve Bannon. Je crois qu'on ne peut pas dissocier ça de ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, de la politique intérieure de l'administration Trump, qui est vraiment, je crois, là, on a affaire à un vrai basculement et à une révolution juridique et culturelle, une mise au pas méthodique des checks and balances, des contre-pouvoirs, une prise de contrôle des universités, des milieux académiques, une résistance au pouvoir de la justice, très très claire. Il y a énormément de décisions de justice qui ont été prises et qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas mises en œuvre, que l'administration tout simplement ignore. Il y a une réorganisation du département d'État. Il y a aussi la suppression de toutes les, de de toutes les subventions aux activités culturelles publiques, aux médias publics. On a vraiment, en 100 jours, là je dois dire, des actions multiples dans des tas de directions qui montrent qu'il y a vraiment une volonté très organisée et méthodique de reconstruire, et ça n'est pas le mot, mais de détruire, pour commencer, l'État tel qu'il existe jusqu'ici.
Je vois Didier Lesky qui acquiesce à ce que vous venez de dire.
Oui, je pense qu'il y a une forme de révolution au sens où il est pris par le temps. Voilà, il a 2 ans pour faire tout ça, parce qu'après, il va y avoir des élections, et il n'est pas sûr complètement de les gagner, parce que, malgré tout, quand on joue sur le système des actions, alors qu'on a un système de retraite par capitalisation, et que d'un coup, ça fait baisser 15% des actions, et en même temps 15% des retraites des gens, ça finit par avoir un effet.
Quand vous parlez des élections, ce sont les élections de mi-mandat, oui, donc c'est même dans 18 mois.
Hein, de mi-mandat dans 18 mois, donc il y a quelque chose qui est la référence aux 100 jours. En plus, on sait bien, enfin, tout le monde la partage, je veux dire, depuis, je dirais, quasiment la Commune de Paris. Donc, voilà. Et donc, il y a la volonté de faire quelque chose très vite et d'ancrer les choses suffisamment pour qu'il y ait un sentiment de bascule. Après, on verra bien comment ceux qui sont en face arrivent à se repenser, parce que quand même, la vraie question, c'est pas qu'ils soient méchants, hein. C'est pourquoi les gentils ont à ce point-là perdu pied, n'arrivent pas à entraîner les gens. Enfin, il faut quand même comprendre des phénomènes très profonds. On le voit même du point de vue social. Il y a eu des référendums pour savoir s'il fallait ou pas des salaires minimums. Hein. L'endroit où ces référendums ont gagné, c'est les États républicains, et les endroits où la volonté d'avoir un salaire minimum a perdu, c'est les États démocrates. Donc on sait bien, c'est un peu comme en France où les corps de ville bourgeois sont dirigés par la gauche et les zones les plus défavorisées sont prises par d'autres. Voilà, et ceux qui sont au cœur n'arrivent pas à s'interroger suffisamment pour savoir pourquoi ils n'arrivent plus à entraîner ceux qu'historiquement ils avaient décidé pourtant de défendre pour un vie meilleur.
Jean-François Colosimo.
Oui, enfin, me coulant dans les remarques de Sylvie Kaufmann et de Didier Lesky, bien entendu, on peut dire tout ce à quoi il n'est pas arrivé diplomatiquement, n'est-ce pas, cocher les cases, le bilan est très négatif. On peut dire la manière dont il a alerté la bourse, l'illisibilité de son programme économique, tout ça. Mais il y a un point sur lequel il a gagné, manifestement, c'est ce combat culturel ou cette révolution culturelle. Pourquoi ? Parce que, en fait, il a été élu contre cet ultra-progressisme très diversitaire qui consiste dans, l'accession des minorités ou des individus à toujours plus de droits au nom du droit. Bon, ça a été violemment rejeté par l'Amérique, le peuple américain. Et lui, là-dessus, il a gagné. Pourquoi ? Parce que cet ultra-progressisme, comme son nom l'indique, qu'on appelle parfois wokisme, enfin c'est un terme tellement vague et nébuleux qu'il ne veut rien dire, mais cet ultra-progressisme, il prétendait avoir pour lui le sens de l'histoire. C'était lui l'histoire, et on appelait les autres des réactionnaires, ceux qui empêchent le mouvement, des conservateurs, ceux qui professent l'inertie. C'est lui qui aujourd'hui incarne le mouvement, et je voulais juste dire là-dessus, enfin, il n'y a pas de quoi s'en réjouir, je veux dire, mais là-dessus, oui, il a marqué un très grand point, parce qu'il a montré que ça n'était pas irrésistible, et que si on avait envie d'y résister... Alors aujourd'hui, que va faire le Parti démocrate ? C'est la véritable question, parce que le Parti démocrate, en substituant, comme beaucoup d'autres partis progressistes, les questions sociétales aux questions sociales, il a perdu ce peuple américain qui s'est donné à Trump. C'est quand même ça un véritable problème. Quand ça se passe à l'échelle de l'Amérique, oui, c'est un séisme mondial.
Alors, on verra s'il en regagne une partie lors de ces élections de mi-terme, de mi-mandat. Un dernier mot encore, Magali Lafourcade. The Economist, cette semaine, grand hebdomadaire, mettait en une un pigargue. Alors, vous savez, c'est l'oiseau, ce rapace qui représente les États-Unis. Un pigargue totalement amoché, alors avec plein de bandelettes, des coups partout. Et le titre, c'était Only 1361, je le dis en français, Days to Go. C'est-à-dire encore 1361 jours, en gros, à tenir. Alors, il y en a un petit peu moins depuis la sortie de l'hebdomadaire mercredi. Mais est-ce que c'est ça aussi ce qu'on peut se dire ? C'est-à-dire, après 100 jours de Trump, c'est de dire il va quand même y en avoir encore beaucoup plus et ça risque d'être long.
Oui, ça risque d'être long. Et pour peut-être un peu nuancer par rapport à ce que vient de dire Jean-François Colosimo, Enfin, il n'y a pas eu une victoire non plus massive hein, du camp de Trump sur le vote populaire. C'est 1,5% de plus que pour le vote démocrate. Par contre, là où je rejoins complètement Jean-François Colosimo, c'est que les démocrates souffrent d'un discrédit énorme. Face à ça, il y a quand même une société qui est en train de s'organiser. On a des gouverneurs qui commencent à s'organiser. On a des manifestations dans tous les États américains. Et puis surtout, on a les juges qui, je trouve, font preuve d'un courage assez extraordinaire pour pouvoir faire une résistance. Donc, et puis, il y a aussi la presse libre. Donc, on voit que après ces 100 jours, tout ce qui reste à courir est encore très long. Mais c'est là où on va voir la solidité de l'État, de la société civile et des structures de check and balance pour pouvoir arriver à faire obstacle aux plans les plus déments. Et puis, sur le wokisme, juste un dernier mot, je crois quand même que, même si la stratégie des démocrates a été clairement invalidée, les citoyens qui ont voté Trump n'étaient peut-être pas tous au courant que ça irait aussi loin dans la stratégie conservatrice avec l'idée de dicter aux universités ce qu'elles doivent dire, de nier la science et de susciter comme ça peut-être un exode des cerveaux, en tout cas des chercheurs. Et ça, il n'est pas certain que cet ultra-conservatisme-là était porté par la société.
À propos de cet exode, d'ailleurs, il y a Emmanuel Macron qui demain devrait lancer une grande initiative pour appeler les scientifiques du monde entier, en particulier ceux qui viennent des États-Unis, à rejoindre la France s'il le souhaite. Un tout petit mot de conclusion.
Oui, juste une précision pour nuancer. Vous avez parlé des sondages qui à juste titre, qui montrent une certaine érosion de la cote de popularité de Donald Trump. Mais d'autres études d'opinion montrent aussi que sa base reste extrêmement solide et très loyale. Donc, il garde quand même cette base MAGA tout à fait derrière lui, de manière tout à fait solide.
Voilà pour les 100 jours de Trump. On passe à notre deuxième sujet, ce scandale qui vous aura peut-être échappé. Les Français ont été privés de pain le 1er mai.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Les fleuristes, les boulangers surtout, c'est un service de proximité. Il y a les droits des salariés et en même temps, il y a les besoins, les attentes de la population. Si ils veulent, parce que ce n'est pas une obligation, s'ils veulent ouvrir le 1er mai, qu'on leur foute la paix. Je veux dire, aujourd'hui, il y a de l'ambiguïté dans la législation.
Pas question. Il y a 364 autres jours pour ouvrir. Je rappelle que le 1er mai, les patrons peuvent travailler s'ils le souhaitent. Mmh. Mais pour les travailleurs et les travailleuses, c'est férié, c'est chômé. C'est un conquis de la lutte. Et c'est très important que ce jour reste férié et chômé.
Si Marie-Antoinette avait vécu en 2025 et que le peuple affamé s'était pressé sous ses fenêtres un 1er mai pour lui réclamer du pain, voici ce qu'aurait pu leur répondre l'auguste tête couronnée. Je n'y peux rien si les boulangeries sont fermées. Car c'est un fait, le jour de la fête du travail, on chôme aussi dans le monde de la boulange. Et égard à ceux qui tentent de resquiller, pour avoir ouvert leur boutique lors d'un précédent 1er mai, des boulangers et leurs petits mitrons se virent sanctionnés par l'inspection du travail. D'où le Baguette Gate de cette année, une polémique qui s'est mise à gonfler aussi sûrement que de la pâte à brioche. Des sénateurs ont déposé une proposition de loi afin de ne pas priver les boulangers d'une journée de recettes supplémentaires, ni les amateurs de viennoiseries de leur petit déjeuner. Pas question, a répondu la CGT, vous l'avez entendu par la voix de sa secrétaire générale. Il y a 364 autres jours pour ouvrir, c'est une conquête sociale et nous sommes là pour la préserver. Alors le sujet des jours fériés est un sujet éruptif en France, c'est relativement saisonnier. Le printemps est propice à leur remise en cause, le calendrier étant, il est vrai, davantage troué qu'un bretzel. 1er mai, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, encore que ce dernier n'est que diversement respecté désormais, ayant fait les frais de la journée de solidarité suite à la canicule meurtrière de 2003. Alors, faudrait-il aller plus loin et supprimer d'autres jours fériés ? L'idée revient à intervalles réguliers, particulièrement quand les caisses de l'État sont vides et que d'aucuns ne voient pas de meilleure option que de nous faire travailler davantage pour augmenter l'activité, donc les recettes, donc les impôts. Ça se tient. Mais les jours fériés ont aussi leur utilité. On se repose, on se retrouve en famille ou entre amis, on consomme des loisirs, on commémore des fêtes religieuses ou républicaines. ça se défend. Eh bien, c'est notre deuxième sujet que nous allons continuer d'aborder, toujours avec Magali Lafourcade, Jean-François Colosimo, Sylvie Kaufmann et Didier Lesky. Didier Lesky, dans cette bataille pour l'ouverture des boulangeries le 1er mai, vous vous placez plutôt du côté de la CGT qui le défend comme un acquis social, ou plutôt du côté du sénateur qu'on a entendu, Hervé Marseille, qui dit bah, il faut instaurer de la liberté, et cette liberté, ça passe aussi par la capacité des boulangers à ouvrir s'ils en ont envie.
On est à la fois dans le symbole et puis dans l'histoire, parce qu'il faut bien se souvenir quand même que l'institutionnalisation légale du 1er mai, c'est Vichy avec René Belin, qui était un ancien dirigeant de la CGT réformiste et qui est passé avec armes et bagages du côté de Vichy. Et c'est dans le prolongement du reste de ce qu'avait fait la Révolution russe, puisque c'est la Révolution russe qui la première fois a institué le 1er mai comme jour férié et chômé.
Alors Vichy qui parlait de la fête du travail, alors aujourd'hui les syndicats disent c'est la fête des travailleurs.
Oui, c'est historiquement la fête internationale des travailleurs, mais c'est juridiquement la fête du travail. Donc on est dans les batailles de symboles qui sont très anciennes, mais c'est historiquement la fête internationale des travailleurs avec cette idée qu'on allait faire la grève pour aller manifester. Aujourd'hui, on chôme et il y a de moins en moins de manifestants. Donc c'est un des problèmes sans doute du 1er mai, c'est-à-dire l'incapacité ou la perte de capacité à mobiliser. Encore que, entre 1954 et 1968, il n'y a pas eu de manifestation du 1er mai. Hein. C'était lié à la guerre d'Algérie. C'est au moment de 68, on voit bien que c'est lié justement à la mobilisation sociale, que de nouveau, on a réhabilité la manifestation du 1er mai, mais qui depuis est tombée bouc en désuétude. Et puis, il y a la question de la boulangerie. Voilà. Et là encore, on est à la fois dans le symbole et dans la mobilisation sociale, parce que l'absence de pain, hein, c'est ce qui fait le mouvement social ou la révolution, voilà, depuis la révolution, voilà. Et donc, ne pas mettre le pain le jour du 1er mai, c'est d'une certaine manière aussi marquer le fait qu'on est pour la mobilisation sociale. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors après, il y a toujours cette discussion sur les 11 fêtes légales, on en a 6 qui ont une origine religieuse, 5 qui ont une origine laïque, encore qu'on peut discuter du 1er janvier, qui est aussi la fête de la circoncision du Christ, nous dirait Jean-François Colosimo. On a eu une discussion pendant très longtemps sur le dimanche, hein. Et je rappelle que le dimanche n'était pas la césure dominicale jusqu'en 1906, c'est-à-dire jusqu'au drame de Courrières, hein, plus de 1000 morts, et à ce moment-là, on met pour tout le monde cette fête, enfin ce repos dominical que Napoléon avait institué en 1806 uniquement pour les fonctionnaires.
Donc, repos dominical qui, alors justement, a été remis en cause il y a quelques années, c'est-à-dire avec l'ouverture notamment la possibilité d'ouvrir davantage pour les supermarchés le dimanche. Est-ce que ça vous paraît, après je donnerai la parole aux autres, mais un processus logique, c'est-à-dire finalement de libéraliser et de permettre aussi à chacun de profiter de ses week-ends en consommant, ou bien est-ce que ça vous paraît une forme de dérive aujourd'hui?
La grande victoire du monde du travail, ça a été de faire baisser la journée de travail, l'amplitude de journée de travail, et d'avoir des congés légaux qu'on augmente, enfin voilà, les 5 semaines de congés payés. Après, tout se mélange dans la discussion entre le symbolique, entre des ultra-laïcs qui ne veulent plus de certaines fêtes religieuses parce que tout le monde n'aurait pas sa fête, enfin bon, voilà. Mais, bien évidemment, il y a quelque chose de profondément inégalitaire, parce que il y a des gens qui travaillent le dimanche, ne serait-ce que dans les hôpitaux, les policiers, et on n'imagine pas que les policiers travaillent pas le dimanche, parce qu'il y a quand même de la sécurité publique à assurer tous les jours, en particulier quand il y a beaucoup de gens dans les rues, etc. Donc il y a quelque chose qui se mélange, et en plus, il y a une aspiration justement dans les cœurs de ville, et si vous avez raison, rappelez-vous la bataille pour la rue des Francs-Bourgeois. On avait un inspecteur du travail, hein, qui était très à gauche, et qui systématiquement verbalisait les magasins le dimanche rue des Francs-Bourgeois pour empêcher les gens d'acheter des choses ce jour-là, en disant c'est la fête, c'est le repos dominical, ça ne peut pas être utilisé par ceux qui travaillent pour permettre à ceux qui se baladent d'acheter des choses.
Jean-François Colosimo, est-ce qu'il faut répondre justement aux aspirations des gens qui ne travaillent pas ces jours-là pour pouvoir consommer, que ça soit le 1er mai, le dimanche ou peut-être un autre jour férié, ou bien au contraire, est-ce qu'il faut vraiment sanctuariser ces moments-là parce qu'ils disent autre chose peut-être que seulement des jours où on ne travaille pas?
Il faut réhabiliter le chemin.
Pendant des millénaires, l'humanité a pensé que même Dieu ou les dieux, ça dépend des traditions religieuses, après avoir beaucoup œuvré, se reposer, tu vois. Bon, c'est divin de se reposer, c'est voilà. Et donc c'est, je dirais, une forme de hausse de l'humanité que de pouvoir se diviniser dans le repos. Voilà, ça c'est un premier point. Non mais c'est vrai, donc d'ailleurs Dieu se repose lui-même d'avoir agi. Donc pourquoi les êtres humains n'auraient pas le droit de se reposer? Deuxièmement, l'océan, il connaît la vague, mais il connaît aussi le ressac. Bah, même l'océan, il avance, il recule. Bon, il y a des moments aussi, donc... Oui, alors en fait, ce capitalisme dont on nous parle, il a un bréviaire, hein, qui est un bréviaire gauchiste, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est l'anti-Oedipe de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, totalement, où, en fait, dans une espèce de volonté de dénoncer les structures paranoïdes qui organisent, Deleuze et Guattari disent ben, « il faut créer des rhizomes, la société, elle n'a pas de verticalité, elle n'a pas d'ordre, c'est comme ces flaques-là de cellules qui se répandent, et il faut qu'on devienne tous des schizodécodeurs, c'est-à-dire que nous soyons dans l'illimité du désir, hein, et que nous soyons sans arrêt en train d'avancer, et donc de consommer ». C'est paradoxal, mais c'est quand même ce bréviaire-là. Tu vois.
Donc le sénateur qu'on a entendu, la Hervé Marseille, qui est de droite, quelque part, il a un fond gauchiste.
Il n'a pas peut-être lu Deleuze, mais Deleuze et Guattari fonctionnent aussi comme des symptômes. Je veux dire, bon, et peut-être qu'il a lu Deleuze, au fond, peut-être qu'il est deleuzien, ben, ça serait une surprise. Mais bon. Ce qu'on sait, le deuxième point, c'est que... moi, je n'opposerais même pas, contrairement à certaines personnes qui sont dans un militantisme laïciste totalement dépassé, les fêtes religieuses et les fêtes républicaines, parce qu'il y a une histoire de France, n'est-ce pas, et que dans les conquêtes des travailleurs, il y a aussi un gros apport des catholiques sociaux au XIXe siècle, n'est-ce pas, et qui vont d'ailleurs donner lieu à beaucoup de branches socialistes, voire anarcho-syndicalistes, dont le souvenir a malheureusement été un peu effacé par l'emprise de l'Union soviétique via le Parti communiste français et la CGT sur le mouvement ouvrier en France. Donc non, tout ça, c'est la France...
C'est une tentative de réhabilitation de Proudhon.
Pas que de Proudhon, mais regardez, il y a aussi la Cordère, il y a aussi la Tour du Pin, etc. Enfin, je veux dire, c'est la Tour du Pin qui milite pour qu'on cesse d'envoyer les enfants dans les mines. C'est un catholique pur sucre. Donc, on ne peut pas non plus opposer ça. Donc, on est un pays, on vit à des rythmes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait à tout prix sacrifier aux mammons de la consommation à tout moment, en fait, comme des espèces de machines, je dirais, donc, qui existent que pour qu'on leur mette un jeton et qu'elles restituent quoi ? Finalement, de la bêtise.
Comment est-ce que vous répondez à cette question, Magali Lafourcade ?
Je suis assez d'accord, hein, c'est-à-dire que je pense que... Derrière ça, il y a le problème de l'acceptabilité d'une telle proposition, donc de supprimer un jour ou de créer une deuxième journée de solidarité. Je rejoins tout à fait Jean-François Colosimo sur le fait que ces jours-là rendent compte de notre histoire et aussi sont des marqueurs culturels et même de synchronicité sociale. C'est-à-dire qu'ils permettent aux personnes de pouvoir se retrouver en famille, entre amis, parce qu'on peut anticiper les dates. Et donc, il y a un effet de construction et d'adhésion à des valeurs... Voilà. Mais le problème de l'acceptabilité de supprimer un jour, c'est que nous avons un gouvernement qui est très faible et qui voudrait faire avaler éventuellement cette pilule au nom d'un État qui ne s'est pas montré particulièrement économe ni bon gestionnaire. Donc pour que les gens acceptent ça, il faut d'une part avoir le sentiment que l'État est bien géré, que les finances publiques ne sont pas aussi mal gérées que c'est la sensation actuelle, hein, dénoncée par la Cour des comptes d'ailleurs. Et puis aussi, il faut avoir l'impression d'une certaine justice. Or, encore une fois, ce serait sur les travailleurs que ça tomberait. Selon les différents modèles choisis, à savoir est-ce que c'est un travail où on est mieux rémunéré ce jour-là avec une majoration ou si c'est une journée de solidarité où en fait le salarié n'est pas rémunéré pour pouvoir soutenir des causes sociales. Le problème à ce moment-là, c'est que les travailleurs sont ceux qui seraient impactés alors qu'ils ont déjà subi une réforme des retraites, plusieurs réformes de l'assurance chômage, un gel des points d'indice, des rémunérations qui ne suivent pas l'inflation. Donc ça fait quand même beaucoup alors qu'à côté de ça, on ne travaille pas sur les revenus du capital, on ne pèse pas sur les dividendes. Et donc il y a un peu une idée que c'est toujours sur les mêmes que ça pèse. Et pour ça, on n'aurait pas d'adhésion populaire sur cette idée-là. Et en plus, ça remet en cause quelque chose de très très ancré, de très culturel. Et la France n'est pas un pays qui a énormément de jours, comme on l'entend souvent. C'est 11 jours. Il y en a beaucoup plus. Au Japon, c'est 15, hein, 11 jours fériés. Et puis, ils ne sont pas tous chômés. Voilà, donc je crois qu'il y a ce problème-là. Et puis même plus largement, si je peux dire un dernier point, je crois que ce qui manque dans le débat politique aujourd'hui, c'est une vraie réflexion sur le travail. On a ça chez les chercheurs. Dans beaucoup de médias intelligents portent cette idée qu'il faut avoir une réflexion d'ampleur sur le travail, la pénibilité, qu'est-ce que c'est que travailler plus longtemps, etc. Et aujourd'hui, la place du travail dans notre société, elle n'est pas portée politiquement. Et ça, c'est quand même un vrai problème quand on veut aborder une suppression d'un jour férié.
D'accord, on passe de la fermeture forcée, plus ou moins, des boulangeries le 1er mai, à une réflexion plus large sur le travail, Sylvie Kaufmann.
Oui, oui, absolument. Alors d'abord, je voulais vous rassurer, Hervé, j'ai eu une baguette le 1er mai, parce qu'en fait, il y avait plein de boulangers ouverts. Et je crois qu'il suffit d'avoir deux ou trois tables à l'extérieur d'une boulangerie pour passer pour un café-restaurant, et on a le droit d'ouvrir avec ses employés, j'ai l'impression.
On pouvait même faire, alors, moi je vais raconter mon expérience personnelle, c'est-à-dire acheter du pain la veille pour en avoir le 1er mai.
Oui,
ce qui n'était pas si compliqué que ça, hein, ouais. D'ailleurs.
Non, non, mais là, vous touchez à quelque chose de très profond dans la culture française, le pain. Et on sait, vous savez, il y a un historien américain, Steve Kaplan, qui a écrit d'innombrables livres sur le rôle historique et culturel du pain, notamment dans la Révolution française. Et donc, c'est un débat, c'est un sujet très important. En même temps, Hervé, vous le savez très bien aussi, nous, les journalistes, nous travaillons tous les jours, sauf le 1er mai, qui est le seul jour chômé pour les journalistes, sauf dans la radio.
Bien. Ah oui, à la radio, à la télévision,
on travaille. Voilà. Et donc, si vous voulez, les jours fériés, c'est vrai que dans notre profession, on ne sait pas forcément ce que c'est.
Et je précise qu'on est en direct le dimanche.
Absolument. En même temps, je comprends que pour les travailleurs, les autres travailleurs, ça soit un débat important. Faut-il supprimer, enfin, un important que n'est pas envie, visiblement, d'après les études d'opinion, ça n'est pas majoritairement approuvé, l'idée de supprimer un jour férié. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait que derrière cette question, c'est bien celle du travail qui se pose. C'est évident. C'est le débat sur le travail, sur la valeur travail, sur ce que représente leur travail, sur son rôle économique, sur son rôle aussi dans le financement de la protection sociale. Parce que s'il est question de supprimer un autre jour férié, c'est bien pour participer au financement de la protection sociale et du traitement des personnes âgées. Mais donc là, c'est vrai, pourquoi faire peser cette charge à nouveau sur le travail? Pourquoi pas en demander d'autres, la faire participer davantage les revenus financiers, etc. Et juste comme je me demandais un peu pourquoi vous aviez choisi ce sujet, je dois dire, Hervé, je suis moins inspiré que mes amis autour de la table, mais je me suis plongé du coup dans un rapport du Conseil d'analyse économique du mois de mars, qui est le Conseil d'analyse économique qui est rattaché à Matignon, et qui montre que le nombre d'heures travaillées en France n'est pas tellement inférieur à ceux de nos voisins. Il est inférieur à celui d'Allemagne, bien sûr, un petit peu, mais ça n'est pas monstrueux ce qui se passe en France. Le problème, c'est que ce n'est pas que les gens ne travaillent pas assez, les gens qui travaillent, qui sont essentiellement ceux entre 30 et 54 ans, travaillent tout à fait normalement et travaillent un nombre d'heures qui est tout à fait comparable à nos voisins européens. Le problème, c'est qu'avant ces 30 ans, dans la tranche d'âge des jeunes, les gens sont beaucoup trop éloignés de l'emploi, mettent beaucoup trop de temps à accéder à l'emploi. Et après 54 ans, on a le même problème. Ils partent trop tôt, ils quittent trop tôt le monde du travail. Donc je pense que oui, on a entendu autour de cette table, il faut réhabiliter le travail. C'est un autre sujet, je pense. On en reviendra sur cette question, mais je crois qu'il s'impose.
Sans aller jusqu'à supprimer un jour férié, Didier Leschi, et pour terminer, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être repenser leur répartition? Si les jours fériés, ils racontent aussi notre histoire et une partie de notre identité française, cette identité, elle évolue. On est dans une société qui est multiconfessionnelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être justement repenser la répartition, en supprimer certains pour en mettre d'autres ailleurs, pour qu'ils soient peut-être plus représentatifs de l'ensemble de la société française?
Alors, je rappelle qu'il existe une circulaire administrative qui autorise les personnes, en fonction d'autres confessions, à avoir un jour de repos qui correspond à leur confession. Il y a toute une série de jours qui sont très directement pointés. Donc, on a là une adaptation du cadre laïque qui est souvent méconnue par beaucoup de gens quand on discute de tout ça. Donc, après, toucher l'ensemble, jusqu'où ça s'arrête. Voilà, il y a 25 000 religions possibles avec 25 000 demandes. Et en plus, on a même le 24 avril, par exemple, puisque on vient de célébrer malheureusement le génocide arménien. Et ça fait partie des jours que l'on peut poser pour justement participer de ces commémorations. Donc on voit que c'est assez souple. Voilà, moi je terminerai, je dirais, en disant que je suis assez d'accord avec Jean-François Colosimo. Le capitalisme, c'est la domination de la marchandise sur la vie, voilà, et qu'à partir de là, il faut poser des limites à ce que cette domination de la marchandise n'empiète pas complètement l'ensemble de l'organisation sociale et de la vie. Et en ce sens-là, il faut rester toujours attaché à quelques conquêtes sociales.
Il faut rester attaché aussi à la ponctualité, raison pour laquelle Jean-François Colosimo et Magali Lafourcade ne pourront pas dire un dernier petit mot, puisqu'il va falloir qu'on rende l'antenne bientôt, non sans vous avoir remercié tous les quatre, Magali Lafourcade, donc Jean-François Colosimo, Didier Leschi et Sylvie Kaufmann. Cette émission était préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jean Reynaud, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Voilà, lisez Deleuze et bon dimanche, à la semaine prochaine.
Écoutez France Culture.
L'histoire de la régie Renault commence à Boulogne-Billancourt tout simplement parce que la famille Renault y possède une maison.
C'est une entreprise, mais c'est aussi un symbole.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
La régie Renault a représenté davantage que les véhicules qui sortaient de ses usines.
Le domaine de la propulsion terrestre vient de s'annexer la Dauphine.
Quant à son fondateur Louis Renault, il a été le héros de la Grande Guerre, mais le paria de la Seconde. Toute une saga que nous allons vous raconter ce dimanche dans Salle des Archives.
Salle des Archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour une heure autour des images.
Patrick Boucheron.
Elles nous environnent et nous accaparent. Certaines nous aveuglent, d'autres nous réveillent. Mais parfois, on ne peut plus les voir en peinture. Alors, je vous propose un exercice radiophonique. Allons-y voir, avec des invités, quelques sociétaires d'une académie de l'invisible, pour se donner des nouvelles de notre manière d'être au monde.
Allons-y voir, ce dimanche à 14h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et sur France Culture, il est pile midi, c'est l'heure de retrouver